Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline. Avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver à bord du cargo de Radio Caroline pour une éclairante traversée à la fois très féminine et très écologique. Et pour cause, nous allons fendre les vagues de ce qu'on appelle l'écoféminisme, mais en remontant à la source au début des 70s et au travers d'une personnalité captivante, truculente, totalement hors norme, même parmi les féministes de son époque, Françoise Daubonne. Une femme que l'histoire a oubliée, et pourtant fondamentale pour ce mouvement qui, 50 ans plus tard, fait plus que jamais parler de lui. Alors, même si a priori tout cela vous déroute, faites-moi confiance, vous ne regretterez pas le voyage. C'est en 1974, dans le livre « Le féminisme ou la mort » de Françoise Daubonne, que l'on trouve pour la première fois cette expression « écoféminisme », contraction bien sûr de « écologie » et de « féminisme ». Le principe est simple, les femmes comme la nature sont victimes de la domination masculine, dès lors l'exploitation de l'environnement et l'oppression des femmes par les hommes peuvent et doivent se combattre ensemble. C'est l'idée, le principe, le mantra que développera et martèlera Françoise Daubonne, disparue il y a 20 ans, en 2005, à l'âge de 85 ans, dont nous allons raconter le parcours étonnant qui passera aussi par les combats qu'elle engagera contre la guerre d'Algérie, la peine de mort, pour la dépénalisation de l'avortement ou celle de l'homosexualité. Mais en guise d'avant-goût, écoutez donc, nous sommes le 3 mai 1972, 2 ans donc avant qu'elle ne théorise véritablement ce fameux écoféminisme.
Je vois de plus en plus, et du reste, à ma propre surprise, car hélas, je n'ai plus 20 ans, et je vois de plus en plus, à une rapidité étonnante, les femmes commencer à faire confiance aux femmes parce qu'elles ne font plus confiance aux hommes, parce que ce monde est complètement foutu depuis le temps que les hommes le mènent et qu'ils nous ont pris les deux pouvoirs de l'Antiquité, le pouvoir de la procréation et le pouvoir de la fertilité. Pour en faire quoi ? J'en reviens toujours à mon dada, c'est vrai, c'est une idée fixe, cette destruction de l'environnement qui nous menace et cette accumulation de démographie qui fait qu'il est une sinistre farce de parler maintenant de la mission sacrée de la maternité quand nous sommes menacés de 6 milliards en l'an 2000. Moi, je suis mère, je suis grand-mère, j'ai 2 petits-enfants. Et bien précisément, c'est aussi parce que je pense à eux et à leur avenir que je pense qu'ils vont vivre dans un monde invivable.
Françoise Daubonne, à l'origine donc du concept d'écoféminisme, est née en 1920. Sa mère, d'origine espagnole, est l'une des premières femmes à suivre des études scientifiques à la Faculté des sciences de Paris, auprès de Marie Curie notamment. Et non sans mal, les élèves masculins tentant par tous les moyens d'empêcher les femmes de participer à ces cours scientifiques, ce qu'elle ne manquera pas de raconter à sa fille Françoise. Quant au père de Françoise Daubonne, dont les racines sont bretonnes, c'est un progressiste chrétien issu d'une famille comptant parmi ses ancêtres un navigateur anti-esclavagiste des Antilles. C'est suffisamment rare pour être pointé. On ne s'étonnera donc pas que Françoise soit très tôt dans l'engagement et convaincue de la nécessité de l'égalité entre hommes et femmes. Enfant, défiant les sœurs dominicaines, elle inscrit d'ailleurs vive le féminisme sur le parvis du couvent des dames. Mais elle adore écrire aussi et remportera le concours de la meilleure nouvelle des moins de 13 ans, organisé par les éditions de Noël dans les années 30. Donc, si Françoise Daubonne n'entamera pas d'études supérieures, universitaires, elle poursuivra plus que jamais son chemin dans l'écriture, publiant son premier roman en 1944. Cette même année, elle devient mère d'une petite fille, mais s'est séparée de son mari avant la naissance de l'enfant, dont elle confiera le soin et l'éducation à sa famille. Elle dira d'ailleurs plus tard, maniant l'ironie avec le même art que l'autodérision, « J'étais un très bon père », sous-entendu un père très absent. En 1947, Françoise Daubonne reçoit le prix des lecteurs du Cercle Interallié pour son roman « Comme un vol de Gerfaut », prix qui lui offre à l'âge de 27 ans, une certaine notoriété et surtout la conforte dans sa vocation pour l'écriture. Outre ses essais sur lesquels nous allons revenir, elle publiera dans tous les domaines littéraires, poésie, théâtre, roman, science-fiction et même nouvelles libertines. Mais surtout, Françoise Daubonne multipliera, je le disais, les engagements. Politiquement, après un bref passage par le Parti communiste, elle militera ardemment contre la guerre d'Algérie avant de participer activement à mai 68. Pour en venir au féminisme, à son féminisme, il avait été amorcé, bien sûr, par la lecture du « Deuxième sexe », livre de Simone de Beauvoir paru en 1949. Elle lui écrira « Vous êtes un génie, nous sommes toutes vengées ». Exaltée par ses lectures, Lige, elle est en revanche scandalisée par l'hostilité que le livre suscite et entreprend la rédaction de son premier essai féministe, Le complexe de Diane, qui paraîtra en 1951. Livre dans lequel Françoise d'Aubonne cherche à expliquer, au départ des mythes antiques, les raisons qui ont conduit les femmes à être exclues du politique et donc du pouvoir. Dans les années 60, elle signera Eros Noir, consacré au romancier licencieux que sont Sade ou Restif de la Bretonne, parmi d'autres. Elle écrira aussi Y a-t-il encore des hommes, avant de signer, en 1970, Eros minoritaire, qu'elle consacre à l'histoire de l'homosexualité masculine. À l'orée des années 70, Françoise d'Aubonne rejoint le mouvement de libération des femmes, le MLF, organisation au sujet de laquelle elle doit s'expliquer en 1972 dans le magazine Aujourd'hui Madame, émission quotidienne d'après-midi, dotée d'un générique devenu culte. C'est plutôt pop, non ? En tout cas, ça secouait la digestion. Et maintenant, donc, Françoise d'Aubonne et les hommes qui la poursuivent jusqu'à ce plateau télé.
Vous définissez là comme des groupuscules se battant en face d'une organisation.
Nous sommes pas des groupes, nous sommes un mouvement. Nous refusons le groupe, nous refusons l'organisation, nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de comité central, nous n'avons personne à notre tête. Nous sommes un mouvement de femmes qui, ensemble, prenons des décisions.
Et quelles ? Précisément, je voudrais vous poser une question, Françoise Lebon. Tout à l'heure, vous disiez, il y a des hommes qui ne souhaitent pas que soit maintenue cette société masculine. Et puis ensuite, vous dites, nous. Je voudrais savoir ce que vous représentez. Et si toutes les femmes souhaitent ce pouvoir féminin que vous-même appelez de vos voeux.
C'est-à-dire, je maintiens bien le point de vue, car en effet, il y a une équivoque. Il y a eu des livres qui se sont appelés « Woman Power ». J'ai dû moi-même en traduire des passages pour mon livre. Donc, ne parlons pas du pouvoir aux femmes, sans ajouter immédiatement, comme je viens de le dire, pour la destruction même du pouvoir. Cela est entendu. Quand je dis « nous », je veux dire « nous, les femmes du MLF ». Je ne représente rien que moi-même ici. Je ne parle pas au nom du MLF. Je suis une femme du MLF parmi les autres.
Et vous êtes combien au MLF ?
Oh, vous savez, ça, la question du nombre, c'est assez fluctuant. Je peux dire sincèrement que je ne le sais pas, que je ne peux faire guère que des approximations, mais que, en tout cas, et ça je tiens à le dire, c'est que le mouvement est né à la fois à Paris et en province, où il y a des groupes qui sont apparus au moment où commençait le groupe de Paris, sans se connaître entre elles, exactement comme le Women's Lib au moment de l'Amérique. Ce qui prouve que, justement, ce parti est historiquement fondé, puisque des femmes qui ne se connaissaient pas entre elles ont eu les mêmes idées, ont eu les mêmes avis, alors que très souvent elles venaient même des milieux sociaux différents, n'avaient ni les mêmes lectures, ni même les mêmes opinions politiques, et qu'elles se sont regroupées aux autour des années 69-70, en disant quand même, ça ne peut pas durer une chose pareille. Cette oppression, cette situation est impensable.
Quelle oppression ? Quelle oppression ? Mais quelle oppression ?
Je l'ai vécu suffisamment pour en parler.
Mais non, c'est pas vrai.
Si Françoise d'Aubonne est l'une des figures du mouvement de libération des femmes, le MLF, elle en est néanmoins un membre hors norme, un électron libre qui participe à certaines actions, à certaines revues, sans pour autant revendiquer une appartenance à un groupe plutôt qu'à un autre. En 1972, elle devient, par exemple, l'égérie du Front homosexuel d'action révolutionnaire, le phare, lancé entre autres par l'écrivain journaliste Guy Hockenheim. Un petit groupe où Dixit, homosexuels et femmes émancipées se donnent la main. Et c'est d'ailleurs via le phare qu'elle est sensibilisée aux problèmes écologiques en cette même année 1972. J'en ai pris conscience le jour où je fus scandalisé d'entendre un de mes amis du phare affirmer « Le problème de la révolution lui-même passe au second plan derrière l'urgence écologique. Le prochain acte réellement révolutionnaire sera l'attentat contre une centrale nucléaire en construction. Le capital en est au stade du suicide et il tuera tout le monde avec lui, lui dit donc un ami. » Et Françoise d'Aubonne de conclure « Il m'aura fallu plus d'un an, vu ma lenteur d'esprit, pour assimiler la profondeur de cette vérité. » Il faut dire qu'au même moment, en 1972, paraît aux États-Unis le fameux rapport Meadows, dont les conclusions sont alarmantes et insistent sur l'épuisement des ressources. La croissance n'est pas illimitée et le système est voué à s'effondrer à l'horizon 2020-2030 si l'on ne change rien. La féministe Françoise Debonne, désormais sensibilisée à l'écologie politique, va opérer la fusion de ces deux notions grâce aux travaux de Serge Moscovici, un psychologue et historien qui, en résumé, en gros résumé, dénonce l'abus que l'homme fait de la nature et la façon dont les hommes se servent des femmes pour s'auto-reproduire. Et c'est la conjonction de ces deux pensées qui mènera chez elle à cette notion d'écoféminisme. Retrouvons-la, Françoise Debonne, dans cette première moitié des années 70, au micro de la RTBF, de Bernadette Abraté.
Donc il faut une véritable révolution.
Une véritable révolution. Et plus encore, dirais-je, une mutation.
Et que va devenir la cellule familiale dans tout cela? Parce qu'enfin, à partir du moment où les femmes ont une forme de pouvoir, elles auront toujours envie d'avoir des enfants. Et qui va élever ces enfants? Donc cette cellule familiale va éclater.
Je crois d'abord que la procréation va être ralentie sérieusement, étant donné que la situation démographique devient plus que catastrophique. Nous sommes menacés d'être 6 milliards en l'an 2000 et 12 milliards en l'an 2025. Avec la destruction de l'environnement, je pense que vous voyez ce que ça peut donner. Donc la procréation, qui évidemment jamais ne s'arrêtera, sera quand même, si l'être humain veut continuer à vivre, sérieusement ralenti. Et ensuite, je pense en effet que cette cellule familiale va éclater et va disparaître dans un temps relativement assez proche.
Et ce temps proche, c'est quoi? 10 ans? 20 ans?
Oh, je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas lire dans le cristal. En tout cas, je suis persuadée que le 21e siècle verra, et sans doute très tôt, la disparition de la cellule familiale.
Vous accusez un petit peu, même assez souvent dans votre livre, l'homme d'être peut-être le destructeur de notre monde actuel. Mais les femmes n'ont pas toujours été passives. Elles ont aussi une grande part de responsabilité dans la pollution, par exemple. Il n'y a quand même pas que des hommes qui dirigent tout cela.
Je pense que si, qu'à partir du moment où on s'élève, les leviers de commande, dans quelque pays que ce soit, dans quelque camp que ce soit, sont toujours entre les mains des hommes. Il y a des exceptions extrêmement rares. On peut citer deux femmes chefs d'État. Je pense que sur le nombre de chefs d'État, c'est quand même une minorité excessivement petite. Mais ça n'est même pas tellement là la question. C'est que les femmes, à l'heure actuelle, appartiennent, comme tous les êtres humains, à une civilisation mâle, à une civilisation masculine, et que cette civilisation mâle, qui, 3000 ans avant notre ère, s'est emparée des deux sources de vie, la procréation et l'agriculture, en a fait la belle chose que nous voyons aujourd'hui, à savoir une démographie absolument folle, dont le taux est devenu exponentiel, et une destruction de l'environnement qui aboutit pratiquement au massacre de la nature.
Et le bonheur dans tout cela?
Le bonheur, d'abord, c'est la vie. C'est la vie. Je dirais même presque, bien que ce soit affreux à dire, à l'heure actuelle, c'est la survie. C'est pour nous une question de survie, et je voudrais, de toutes mes forces, qu'elle débouche sur la question de la vie. Et je pense que justement, les femmes, de par le fait que ce sont elles qui portent l'enfant, sont chargées par des soins de la vie, de la transmission de la vie, et qu'à l'heure actuelle, pour défendre la vie, pour défendre l'homme lui-même, dirais-je, il faut sans aucune hésitation se dresser contre l'homme en tant que mâle.
Françoise Debonne avec Bernadette Abraté.
Radio Caroline avec Olivier Monsens.
C'est donc en 1974, dans son ouvrage « Le féminisme ou la mort », que Françoise Debonne entame sa réflexion sur l'écoféminisme. À propos d'écologie, au sens propre, concret, combatif, elle rejoindra le 3 mai 1975 des militants du commando Ulrich Meinhof Puig Antich pour commettre un attentat à l'explosif contre le chantier de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace et provoquer ainsi un retard de plusieurs mois de ce chantier. Trois semaines plus tard, on peut l'apercevoir sur les images d'une manifestation antinucléaire à Fessenheim, diffusée par France 3 Alsace.
À Fessenheim, il y a 4 ans, ils étaient 1500 pour la première manifestation européenne contre l'énergie nucléaire. Hier, ils étaient 10 000 malgré le froid et le temps gris. 10 000 venus de toute l'Europe et partagés entre les discours des écologistes et des scientifiques et l'immense braderie installée aux abords de la scène principale. Car il fallait en profiter, c'était le dernier rassemblement du genre pour Fessenheim, une centrale déjà en travaux.
Oh,
Vint ensuite le moment de marcher en silence, ou plus ou moins en silence. Une motion fut remise à la mairie de Fessenheim, motion adressée au ministre de l'Industrie et de la Recherche, et réclamant un débat public et une réponse à ce débat avant le 15 juin. Bien sûr, on retrouva aussi, à la fin du cortège, ces éléments incontrôlables qui, partout où ils le peuvent, essayent de provoquer les forces de l'ordre. Injures et jets de pierres n'entamèrent pas la bonne volonté évidente des 1300 hommes mobilisés. Il fallut à la fin quelques cocktails Molotov lancés par les derniers irréductibles pour que les gardes mobiles répliquent par des bombes fumigènes et concluent la fête d'un feu d'artifice en demi-teinte. Ainsi s'achevait une manifestation qui n'avait rien apporté de neuf, si ce n'était de nous rappeler que la petite guerre du nucléaire est bien loin d'être terminée.
En 1976, désormais mère de deux enfants, Françoise Daubonne annoncera dans les colonnes du quotidien Libération: en dépit du tollé général, moi, Françoise Daubonne, 56 ans, j'épouse le détenu Pierre Sana, matricule 645-513, à Fresnes, condamné à 20 ans de prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Le 29 mars 1977, c'est dans le journal Le Monde que l'on pourra lire: 1200 personnes ont assisté, samedi 26 mars à Paris, à la Mutualité, au gala de soutien à la cause de l'abolition de la peine de mort qu'organisait le comité de liaison contre la peine de mort, créé au moment de l'affaire Patrick Henry. Entre les prestations bénévoles du chanteur Yvan Dautin et de l'humoriste Guy Bedos, Madame Françoise Daubonne a notamment affirmé que ce n'est pas à une société qui a fait de l'industrie du crime la base de son existence de porter un jugement contre ceux qui ne sont que de petits artisans du crime. En 1977, toujours, elle est l'invitée sur France Inter de Jacques Chancel.
Radioscopie.
Françoise Daubonne.
Jacques Chancel. Françoise Daubonne, vous êtes toujours sentie responsable de ceux que vous croisiez sur votre chemin.
C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Me dis, quand on me dit « mais tu ne peux pas porter le monde sur tes épaules », je dis « bien entendu, je ne me prends pas pour Jésus-Christ, quelle bonne blague. Je suis une bonne vivante, j'aime la vie, je ne suis pas une sacrifiée, croyez-moi. Ce que je le fais par plaisir. Mais quand je croise quelqu'un, quand je croise un malheur, quand je croise un chemin où il y a une personne dont je sens la détresse, l'appel, l'injustice qu'on lui fait, ben c'est plus fort que moi, je dirais. C'est pas du tout une question de principe, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas ne pas essayer de la prendre en charge, même si j'ai d'amères déceptions. Après, ça m'est arrivé aussi, je m'empresse de le dire.
Françoise Daubonne, en compagnie donc de Jacques Chancel, dans une de ses fameuses radioscopies. Dans la seconde moitié des années 70, Françoise Daubonne signera « Les femmes avant le patriarcat », livre issu de ses recherches sur les Amazones et les sociétés pré-patriarcales, qui défend la thèse suivante: c'est dès le moment où les hommes se sont emparés de la fécondité par la découverte du mécanisme de reproduction et de la fertilité des sols par l'agriculture que les femmes et la terre ont été exploitées. En 1978, paraîtra l'essai que d'aucunes estiment le plus abouti sur l'écoféminisme, est titré « Écologie, féminisme, révolution ou mutation ». Il fait définitivement de Françoise Daubonne Lige une de ses premières théoriciennes. Au final, c'est pas moins d'une soixantaine d'ouvrages, essais, romans ou biographies qu'aura signé Françoise Daubonne. Une vie littéraire et militante foisonnante qui lui a fait croiser la route de la scandaleuse écrivaine Violette Leduc, laquelle, à une époque où cela ne se faisait pas, avait mis en lumière différents types de marginalités sexuelles et affectives. Colette, qui, comme Daubonne le raconte dans son autobiographie « Chienne de jeunesse », aurait publié les poèmes qu'elle, Françoise, avait écrits à l'âge de 9 ans. Mais elle croisera aussi la route de Jean Cocteau, Nathalie Sarraute et Simone de Beauvoir, bien sûr, qui deviendra son amie, sans oublier forcément Jean-Paul Sartre. Pour terminer, deux dernières archives. La première date de 1971 et se révèle pourtant tellement visionnaire sur les combats qui aujourd'hui agitent notre civilisation au sujet des genres.
Alors, Françoise Daubonne.
J'étais en train de penser, en écoutant cet échange de répartie, à une phrase de Rainer Maria Rilke que j'ai souvent citée, tellement elle me semble prophétique, qui est « L'homme et la femme libérés de leurs erreurs cesseront enfin de se rechercher comme des contraires. » Et c'est jusqu'à présent sur ce point que je voudrais quand même voir le débat s'orienter. Parce que je trouve que c'est quand même un peu trop dépassé de repenser à des questions de féminité, entre guillemets, de virilité, entre guillemets, d'hommes, de femmes, etc., entre guillemets. Est-ce la sociologie ? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est la sexologie ? Non, c'est pas ça. On est comme des aveugles, vous savez, la fameuse fable, les aveugles, autour de l'éléphant, l'un qui dit ben, c'est une queue, l'autre dit c'est des défenses, l'autre dit non, c'est une trompe, et puis tous ont raison et tous ont tort. En réalité, je crois que nous arrivons vers une époque beaucoup plus révolutionnaire en profondeur qu'on ne peut l'imaginer, et que précisément, ce qui sera certainement la marque spécifique de cet avenir, ça sera une époque où les différences secondaires que jusqu'à présent on appelait virilité et féminité tout à fait arbitrairement seront complètement dépassées au profit de la totalité de l'humanité. Nous allons vers la totalité dans tous les sens, vers cette humanité aussi.
Monsieur Mulvor,
on ne risque pas de s'ennuyer.
Oui.
Si on élimine les différences.
Précisément, je crois que ça, c'est la question. C'est toujours l'objection qu'on pose.
Toutes les sociétés ont eu une hiérarchie.
Parce qu'il ne s'agit même pas d'hiérarchie. Je parle d'une différence à l'heure actuelle. Et justement, quand on parle de différence, je vois très bien ce qu'on pense. On voit quelque chose du genre du meilleur des mondes et des anticipations fantastiques qui nous font dresser les cheveux sur la tête, à savoir d'une espèce d'uniformité qui serait embêtante, n'est-ce pas? C'est bien ça. Or, à mon avis, c'est justement voir mal le problème, car je crois que demain, cette négation de la différenciation dont je parle, au lieu de se traduire par une uniformité, se traduira au contraire par une synthèse. Et si vous voulez, au lieu de l'être asexué, dont ont peur ceux qui entendent parler de ce genre de choses, on aurait au contraire un être doublement sexué, donc on ne peut plus, ce qui aurait, si vous voulez, toutes les qualités des deux sexes. Il n'y aurait plus l'homme viril, la femme gracieuse, etc., pour prendre très grossièrement des styles dépassés, mais que chaque être humain serait, mettons, viril et gracieux à la fois.
Enfin, on retrouve Françoise Daubonne quelques années plus tard, au micro de Jacques Chancel.
Enfin, vous vous battez pour le mouvement des femmes, vous vous battez pour la révolution sexuelle, vous vous battez pour les prisonniers, vous n'en finirez pas de vous battre dans votre vie, Françoise.
Eh bien, je disais récemment à une de mes amies qui me disait « Croyez-vous pas que nous avons atteint l'âge de la sécurité et de la sérénité ?» J'ai répondu « Je serai en sécurité et je serai sereine quand je serai dans ma tombe. »
Entourée toute sa vie d'amis, d'amants et de camarades militants, Françoise Daubonne a fini son existence relativement seule dans un foyer d'artistes âgés du quartier de Montparnasse. Elle décédera le 3 août 2005 à Paris à l'âge de 85 ans et sera incinérée au crématorium du Père Lachaise à Paris. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le faire savoir, à le partager et à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit. Radio
Caroline. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.